Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le lien de la reine Elisabeth II avec l'Algérie, nous y reviendrons dans votre édition ce jour de funérailles de la reine d'Angleterre. Elisabeth II s'était rendue en visite officielle en Algérie après le tremblement de terre de Chlef en octobre 1980. Gros plan sur cette page de l'histoire avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. L'Assemblée générale des Nations unies, 150 dirigeants sont attendus à New York. Les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder demain à la tribune de l'ONU. Les massacres de Sabra et Shatila il y a 40 ans, cela a duré 3 jours du 16 au 18 septembre 1982. 40 ans plus tard, toujours aucune condamnation pour ce massacre de réfugiés palestiniens. Nous écouterons la journaliste et enseignante Maya Kadra. La mort d'une figure du cinéma algérien, la comédienne Farida Sabounji, est décédée samedi dernier. Les funérailles en ce moment de la reine Elisabeth II, un événement d'une ampleur inédite en Grande-Bretagne. Elisabeth II qui s'était rendue en visite officielle en Algérie pour présenter ses condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre de Chlef en octobre 1980. La reine avait alors manifesté sa sympathie et sa solidarité avec l'Algérie. Nous y revenons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Le décès de la reine Elisabeth II a suscité beaucoup d'émotions en Algérie comme dans le monde, puisque la relation de la reine avec l'Algérie était une relation privilégiée. Et cela a été souligné dans le message envoyé par le président Abdelmajid Tebboune au roi Charles III, qui a donc succédé à la reine Elisabeth. Il a rappelé dans son message que l'Algérie entretient toujours des relations privilégiées et que la reine Elisabeth avait joué un grand rôle pour la paix et la prospérité dans le monde. Et tout le monde effectivement se rappelle que la reine Elisabeth était venue le 25 octobre 1980 en Algérie avec son mari, et elle était venue pour présenter ses condoléances au peuple algérien après le tremblement de terre du 10 octobre 1980 qui avait ravagé la région de Chlef dans le sud-ouest d'Alger, qui avait fait presque 3000 morts. C'est un tremblement de terre qui a ravagé à 80% la ville de Chlef. Donc la reine était venue pour exprimer ses condoléances et sa sympathie. Elle avait même rendu visite aux victimes et à des blessés à l'hôpital Mustapha à Alger. Son mari aussi, roi Philippe, s'était déplacé même à Chlef pour présenter ses condoléances et exprimer son soutien à ses victimes. Mais ce geste a été très apprécié à l'époque déjà. Et il a été rappelé aussi dans la presse algérienne avec la publication des images de l'époque pour dire que la reine était venue en Algérie dans un moment très pénible et qu'elle avait exprimé tout son soutien. Et cela, bien sûr, ne s'oublie pas entre les peuples.
C'est une visite, vous le soulignez, hein, qui a marqué le pays.
Oui, absolument, parce que la reine Elisabeth était venue par bateau et tout le monde se rappelle que le 25 octobre 1980, c'était un grand jour à Alger, puisque il y avait un grand accueil qui lui a été réservé par le président Chérif Benjdid de l'époque, un accueil populaire. Elle s'était aussi déplacée dans la région de Tipaza, dans l'ouest d'Alger, dans les vestiges romains, l'ancienne ville romaine donc de Tipaza. Il y a de belles images donc de cette visite. C'est une belle promotion aussi pour la destination touristique de l'Algérie à l'époque. Et la reine Elisabeth a rappelé que l'Algérie est un grand pays africain qui a une longue histoire. Et ces images ont également été publiées dans la presse après la mort de la reine Elisabeth, donc le 9 septembre.
Le décès d'Elisabeth II qui est largement mis en lumière également en Algérie, c'est ce que vous nous dites.
Oui, absolument. Toute la presse a fait la une. Les télévisions en ont parlé, il y avait beaucoup de sujets aussi sur le long parcours de la reine Elisabeth, aussi son travail en faveur des causes humanitaires, ses déplacements en Afrique, ses relations avec ses œuvres de charité, etc. Parce que c'est quand même un long parcours, elle est restée très longtemps au trône. Et certains la connaissent, certains se sont rappelés qu'il y avait une série qui avait donc tracé, ou si vous voulez, l'histoire de la reine, c'est The Crown. Certains m'ont dit qu'il fallait revenir pour voir un peu, avoir une idée, parce qu'il y a eu beaucoup de secrets, bien sûr, évidemment, sur la famille royale, mais le parcours de cette dame, qui est une dame donc qui a traversé l'histoire, qui a traversé le siècle, a été aussi saluée sur les réseaux sociaux par les Algériens, qui soulignent que elle a fait quand même beaucoup de choses pour son pays et aussi pour beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin.
Vous évoquez ces déplacements en Afrique. La reine Elisabeth II, qui avait une relation étroite, bien entendu, avec les pays du Commonwealth, dont font partie 21 pays africains.
Elle s'est déplacée beaucoup en Afrique, bien sûr dans les pays arabes, là, il n'y a pas eu beaucoup de déplacements, mais son déplacement en Algérie reste historique pour un pays donc de la région méditerranéenne et la région arabe. Et ses déplacements en Afrique aussi, parce que avec elle, le déplacement c'est tout un cérémonial. Le déplacement de la reine, il y a aussi beaucoup d'images et beaucoup de, si vous voulez, de rêveries autour de cette famille royale. On peut le lire dans la presse algérienne, sur les sites électroniques, dans les réseaux sociaux. Bien sûr, on s'était intéressé aussi à ses tenues, on s'était intéressé à sa relation avec Diana, parce que il y a pas quelques temps seulement, on s'est rappelé de la mort de la princesse Diana, l'épouse de Charles, qui était donc morte dans un accident à Paris. Et donc tout ça, puis effectivement, que autour de la reine, il y a une longue histoire à raconter, pas uniquement politique, c'est une histoire humaine, c'est une histoire culturelle, c'est une histoire aussi religieuse, parce que la reine avait aussi un rapport particulier avec la religion chrétienne.
Comment pourriez-vous définir le lien aujourd'hui entretenu entre l'Algérie et le Royaume-Uni ?
C'est un lien rappelé officiellement par le président Abdelmadjid Tebboune, c'est un lien privilégié, très fort, puisque les deux pays ont entretenu des relations maintenant depuis 60 ans, depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Il n'y a pas eu vraiment de grande crise politique ou diplomatique entre Alger et Londres. Il y a eu toujours des échanges très très forts sur le plan politique, sur le plan économique. L'Algérie reste un fournisseur en énergie de la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne fournit aussi pour l'Algérie des produits semi-industriels et d'autres produits. Il y a aussi des relations très fortes sur le plan culturel. Il y a un centre culturel britannique en Algérie, c'est le British Council. Et il y a aussi une volonté de renforcer l'enseignement de l'anglais en Algérie, puisque vous savez que l'Algérie va introduire l'anglais dans le cycle primaire et Londres a déjà exprimé à travers British Council et également les États-Unis à travers son centre culturel leur disponibilité pour soutenir les programmes de formation en langue anglaise. Donc les rapports sont très forts entre les deux pays et cela donc depuis 60 ans.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures, Algérie. L'Assemblée générale des Nations Unies, 150 dirigeants sont attendus à New York. Un sommet sur l'éducation se tient aujourd'hui et dès demain, les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l'ONU. Parmi les sujets, la guerre en Ukraine, bien sûr, la crise sanitaire du Covid-19, la crise énergétique qui menace l'Europe et le changement climatique à deux mois de la COP27 en Égypte. Au moins 81 personnes ont été tuées la semaine dernière lors d'affrontements frontaliers entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Il s'agit de la pire flambée de violence depuis avril 2021. Les deux pays sont convenus en urgence vendredi dernier d'un cessez-le-feu, mais ils se sont depuis accusés mutuellement d'avoir violé cette trêve. Près de la moitié des 970 km de frontières communes est contestée depuis la dislocation de l'URSS sur fond de tension pour l'accès aux ressources. Un échange de prisonniers entre les États-Unis et les talibans en Afghanistan. Les talibans ont remis aux États-Unis un vétéran de la marine américaine, un homme détenu depuis plus de 2 ans. Cet homme qui a été libéré en échange de la libération d'un membre clé du régime taliban. Il y a 40 ans a été commis le massacre de Sabra et Shatila, des camps palestiniens situés dans la banlieue sud de Beyrouth. Femmes, enfants, vieillards assassinés méthodiquement par des milices dirigé par Eli Obeika quelques jours après l'assassinat du président Béchir Gemayel, un massacre organisé avec l'aide d'Ariel Sharon ainsi que l'a montré une commission d'enquête israélienne. Gros plan sur cette page sombre de l'histoire avec la journaliste et enseignante Maya Kadra.
Le massacre de Sabra et Shatila, ça marque une page très sanglante de la guerre libanaise et c'est un crime abominable qui a été commis contre des Palestiniens dans leur camp de réfugiés, ce camp qui est situé dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc actuellement, cette banlieue sud, on peut la considérer comme le fief du Hezbollah, mais le camp, il existe toujours là-bas. Et en ce qui concerne ce crime-là, donc en effet, ça a eu lieu en 82, après l'assassinat du président Béchir Gemayel, dont le mandat très court s'est limité à 21 jours seulement, donc on peut considérer que c'était des représailles. Mais c'était des représailles mafieuses. Pourquoi ? Parce que ça a été organisé par un chef de guerre, connue pour sa criminalité et connue aussi pour son côté très sanglant, c'est Elie Obaïka, qui a été plus tard assassinée à la voiture piégée dans les années 2000. Elie Obaïka, qui était à la tête des forces libanaises en 82, et c'était pas une figure qui rassemblait vraiment tous les combattants de la milice des forces libanaises pendant la guerre, ou bien de la résistance chrétienne, ce qu'on a appelé la résistance chrétienne. Elie Obaïka était une figure controversée. Une figure aussi qui peut être considérée comme une figure de trahison, entre guillemets, parce que premièrement, donc le premier épisode sanglant qui a un peu consacré Elie Obaïka comme un des plus grands criminels de la guerre libanaise, c'était Sabra et Shatila, mais plus tard aussi une autre trahison, c'était le fait qu'il soit un peu le parrain ou bien une grande figure de ce qu'on a appelé l'accord tripartite. Cet accord tripartite, en fait, en 86, je le rappelle, a été signé à Damas. C'était Elie Obaïka, Nabih Berri, ancien chef de ministre, actuellement le chef du Parlement, indétrônable, et Walid Jumblat, qui est à la tête du PST, donc qui était aussi un chef de guerre, un chef de milice. Et donc ces trois chefs de milice, ou trois dirigeants, ou trois zaïms, comme on les appelle au Liban, ont signé un accord en 86 avec Damas, avec le régime syrien qui est tout aussi tortionnaire et sanglant, en donnant à ce régime syrien donc le droit d'occuper le Liban. Donc, évidemment, cet accord tripartite, il y a eu toute une révolution pour pas qu'il ait lieu. Bon, il a été signé, mais il n'a pas été pour autant appliqué, parce qu'à ce moment-là, les forces libanaises, qui étaient déjà très divisées, ont fait leur révolution armée et ils ont évincé Elie Obaïka.
Des miliciens libanais ont massacré des civils palestiniens en septembre 1982, mais aussi avec la complicité d'Israël.
Et il y a eu ce qu'on appelle le comité ou la commission Kahan, qui est un comité israélien qui a enquêté sur ce crime qui a eu lieu à Sabra et Shatila. Et là, je vous avance les résultats de l'enquête israélienne. Cette enquête israélienne, elle a accusé d'une manière très directe, très frontale, Ariel Sharon, d'avoir facilité ce crime. Alors, d'après le rapport de ce comité, Israël n'a pas tué, elle n'a pas attaqué, mais Israël a facilité, entre guillemets, la mission de Elie Obaïka. Et donc, la nuit, ils illuminaient le site avec des grenades artisanales, Il facilitait la logistique aussi. Il y avait des armes israéliennes, mais ça c'est normal parce que les milices chrétiennes étaient en partie armées par Israël. Et ça a commencé avec le rapprochement entre Bachir Gemayel et les autorités israéliennes. C'était une décision prise par Ariel Sharon de faciliter donc ce crime, ce génocide. C'est pas uniquement un crime, c'est un génocide qui a eu lieu à Sabra et Shatila. Mais le principal accusé, il reste Elie Obaïka. C'est lui, avec ses miliciens, et je précise, c'était pas tous les miliciens des forces libanaises. Il y avait vraiment une faction, toute une faction de la milice des forces libanaises qui était mafieuse, qui était corrompue, qui était xénophobe, qui répondait pas à certaines valeurs, qui a perpétré ce génocide-là. Mais d'après ce qu'on sait, c'est qu'Israël a facilité, mais beaucoup, ce génocide-là. Ariel Sharon a été même accusé dans un tribunal israélien d'avoir facilité ce génocide-là, ce qui l'a poussé sous la pression à démissionner de son poste. Après, il a été nommé ministre dans un cabinet, mais sans portefeuille, etc., etc. Ensuite, il a été élu. Donc, voilà, il n'a pas été vraiment puni, mais il a démissionné sous la pression de ce comité. C'est ça un peu les coulisses de ce génocide-là. Mais le principal accusé, pour moi, il reste donc Elie Obaïka, qui a pris une décision de son propre chef d'effectuer des représailles complètement absurdes. Sachant que celui qui a assassiné Béchir Gemayel, c'est Habib Chartouni, qui n'appartient même pas à l'OLP, qui n'est pas palestinien et qui était un grand défenseur du parti nationaliste syrien. Il était engagé dans le parti nationaliste syrien. Et donc ce crime-là a été fomenté par les occupants syriens en 82. Et c'est un militant de ce parti-là qui a fait ce crime et qui jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas arrêté, il n'est pas jugé. Béchir Gemayel, quand il a été élu, il a tendu la main à tous les Libanais. Il a été élu au Parlement libanais, qui est déjà divisé entre musulmans et chrétiens. C'est la parité là-bas. Donc il a été aussi bien élu par des chrétiens que par des musulmans, dont le père de Lokman Slim, qui a été assassiné l'année dernière. On dit que c'est le Hezbollah qui l'a assassiné. Enfin, il n'y a pas d'enquête, mais le père de Lokman Slim, qui est une figure plutôt de gauche, a voté pour Béchir Gemayel. Et donc, le problème, c'est pas Béchir Gemayel. Je pense qu'Elie Obeika, il voulait faire son chef milicien. Et il voulait dire qu'après Béchir Gemayel, c'est moi qui vais gouverner. Le message, c'était, après Béchir Gemayel, c'est moi le chef. Et le ton a été donné avec le génocide de Sabra et Shatila qui a fait plus de 800 victimes. Après, on n'a toujours pas le chiffre exact parce que il y a ceux qui disent 380, d'autres qui disent 800. C'est la BBC en 82 qui a avancé le chiffre de 800. Mais ça reste un génocide abominable où il y a eu des viols, où des enfants ont été torturés, où on a tué des vieux. On est monté sur des corps, sur des cadavres, sur des corps inertes avec des chars. Il y a des chars qui ont roulé sur des cadavres de personnes innocentes. Et ça reste vraiment une énorme page noire et honteuse de l'histoire de la guerre libanaise.
La journaliste et enseignante Maya Kadra, elle répondait à Loïc Barrière. Une grève des taxis mercredi prochain en Tunisie, mouvement à l'appel de l'Union tunisienne des taxis individuels. Le syndicat demande une majoration des tarifs. Il déplore une détérioration de leur situation socio-professionnelle. La mort d'une figure du cinéma en Algérie. La comédienne Farida Sabounji est décédée samedi dernier. C'était après un long combat contre la maladie. Elle avait 92 ans. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à sa famille. Le nombre de cas positifs au Covid-19 ne cesse d'augmenter en France depuis la rentrée scolaire. Près de 30 000 cas quotidiens en moyenne ont été recensés la semaine dernière. La situation reste pour le moment sous contrôle dans les hôpitaux. Vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash. 17h30 pour votre journal, à 19h et 23h votre rendez-vous politique pluriel. Loïc Barrière recevra Jean-Luc Romero Michel, adjoint à la maire de Paris, militant associatif. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.